Tout cela est ridicule.
Tout cela, madame, c'est Versailles.
La 500e d'Historiquement Vôtre.
Happy birthday to you.
Depuis le château de Versailles.
Oui, c'est très beau, Versailles, mais c'est peut-être un peu trop beau.
Est-ce qu'il y a un bal?
Vous pourrez danser.
Stéphane Bern.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Oh là là, il y a du monde aujourd'hui. Et je crois savoir pourquoi. Très heureux, honoré même de vous accueillir, chères auditrices, chers auditeurs, cet après-midi, non pas dans notre habituel studio d'Europe 1, mais au château de Versailles pour une émission pas tout à fait comme les autres. La 500e d'Historiquement Vôtre, l'émission qui vous raconte l'histoire sans se la raconter. Vous avez du texte, David.
Pardon, je vous prie de m'excuser. 500, ça ne nous rajeunit pas.
Mais c'est vrai, David. Oui. Oui.
Quelle spontanéité.
Et dites-vous que c'est encore pire pour moi. Mais il paraît que le temps passe plus vite quand on ne s'ennuie pas. Et avec eux, je ne risque pas de m'ennuyer. Ils sont tous là aujourd'hui en tenue d'époque. Et oui, oui, tous costumés. Alors on peut... Bon, il y a évidemment David Castel-Lopez que vous venez d'entendre. Vous êtes très beau, perruqué.
Je suis perruqué, oui.
Clémentine Portier-Kaltenbach. Alors vous êtes en cardinal, vous êtes tout en rouge.
Oui, Stéphane, car je suis, je confesse, tous les chroniqueurs de cette équipe, et c'est pas triste, croyez-moi.
Oui. Jean-Luc Lemoine, très élégant aussi.
Très élégant, il y a de la perlouse, il y a de tout. Je pense que je peux aller à n'importe quel bal.
Oui. Notre historienne des mœurs, Virginie Giraud. Alors, le décolleté pigeonnant, beaucoup de bijoux.
Oui, oui, tout à fait, parce que je me sentais l'âme d'une duchesse et pas d'une courtisane. Si quelqu'un veut faire la blague, je le dis tout de suite.
La rivière remonte à sa source,
Exactement. Des
de la Castille-Lyonne. Avec notre journaliste à la mode, Yvan Jacob, qui me l'a dit, elle vit aujourd'hui le plus beau jour de sa vie, vrai ?
Oui, tout à fait. Je suis désolée pour mon fils, mais c'est de loin le plus beau jour de ma vie. Et je porte une robe à la française.
Oui, vous êtes magnifique.
Merci.
Et vous qui aimez les costumes,
ah oui.
C'est parfait. Notre médecin légiste de l'histoire, Philippe Charlier.
Moi, je suis en vert, couleur putréfaction ou couleur latrine. Voilà, ça me va très bien, je suis très à l'aise.
Et puis notre guide culinaire vivant et même bon vivant, Olivier Pouls.
Et je ne suis pas en cuisinier, mais écoutez, j'ai suffisamment d'amplitude dans mes vêtements pour manger.
Et vous êtes passé en salle, là.
Voilà, exactement.
Très bien. Ah, émission spéciale, lieu exceptionnel donc. J'aimerais remercier le château de Versailles de nous accueillir, nous et nos personnages du jour. Car oui, on ne change pas les bonnes habitudes, voyez-vous. Comme tous les jours sur Europe 1, on réunit trois personnages qui n'auraient jamais pu se croiser, qui ne vivaient pas à la même époque, mais qui ont tout de même un point commun. Et aujourd'hui, anniversaire oblige, ils ont ouvert le bal. Oui, c'est donc le thème de la 500e d'Historiquement Vôtre cet après-midi, avec celui qui, bien avant nous, a ouvert le bal ici même, au château de Versailles, le roi Louis XV et son célèbre bal qui porte le nom des déguisements les plus improbables qu'on a pu y croiser et dans lequel Sa Majesté était elle-même déguisée, le bal des Ifs. Ce fameux bal des Ifs dont vous avez certainement tous entendu parler, eh bien, on va vous le raconter aujourd'hui. Puis je vous raconte Charles de Bestégui, qui lui a choisi son palais de Venise pour organiser ce qui est resté dans l'histoire comme le bal du siècle, rien que cela. Et après les morts, le vivant, c'est vous Jean-Luc Lemoine qui dresserez aujourd'hui exceptionnellement, à la toute fin de l'émission, le portrait de notre troisième personnage du jour que vous avez souhaité étrangement garder secret.
Étrangement, oui.
Un secret bien gardé parce que je vois le nom écrit sur ma fiche. J'ai donc un peu peur.
Vous avez peur de vous ? Non, il faut surtout pas, Stéphane.
Non, j'ai peur de vous.
Ah oui, ben ça vous pouvez. Mais c'est vrai que pour cette 500e d'Historiquement Vôtre sur Europe 1, l'occasion était trop belle de pouvoir enfin dresser le portrait d'un ouvreur de bal qui est loin d'être un débutant. C'est vous, évidemment, Stéphane Bern, l'ouvreur du bal des débutantes.
Là, c'est le bal des dégoûtants, là, maintenant.
Ça fait plaisir.
Non, mais je parle pour moi. Je ne sais pas si je dois vraiment me réjouir que vous fassiez mon portrait. Eux, en revanche, je me réjouis de les entendre chaque jour. Ça fait 500 émissions que ça dure, pour notre plus grand bonheur. Clémentine, vous allez nous plonger dans l'intimité d'une habituée des lieux qui a vécu ici au château de Versailles et y a fait de la musique aussi.
Oh bah sans doute l'une des plus musiciennes de nos reines de France, oui, Marie-Antoinette naturellement.
Et David, comme chaque jour, vous remontez aux origines d'un objet. Aujourd'hui, vous ne l'avez pas apporté, vous l'avez mis carrément sur la tête. L'origine de la perruque.
Tout à fait. Les perruques, non seulement comme celle-ci, qui se cachent pas d'être des perruques, mais aussi les perruques plus discrètes qui sont faites pour pallier à des manquements.
À des manques plutôt.
Parce à que... des manques, oui, voilà.
Là, vous avez eu un manquement.
Tout à fait, tout à fait.
Les origines, ce sera en dernière partie de l'émission, voyez-vous. Et juste avant, comme dirait l'autre.
Mes aïeux, quelle époque, mes aïeux, quelle époque.
Oui, là, c'est pas mes aïeux, quelle époque, c'est mes aïeux, quelle équipe. Ivan, Virginie, Philippe et Olivier, vous allez nous offrir une chronique chorale. Ça ne veut pas dire, je rassure tout le monde, que vous allez chanter, quoi qu'on ne sait jamais.
Je peux chanter si vous voulez, Stéphane.
Amour, amour.
Non, c'était mieux sans. Vous allez tous plutôt nous raconter un Versailles surprenant qui en a fasciné plus d'un, notamment le créateur de mode Karl Lagerfeld. Ivan, fasciné par un personnage en particulier.
Oui, il s'est beaucoup inspiré de Madame du Barry, notamment pour une collection croisière chez Chanel en 2012. Je vais vous parler de ça.
Ah, très bien. Mes aïeux, quelle époque, ce sera tout à l'heure vers 17h30. On parlera mode, on parlera médecine, cuisine et mœurs également. Aujourd'hui, à émission exceptionnelle sur Europe 1, quiz exceptionnel, c'est-à-dire que vous allez être exceptionnel, Jean-Luc ?
Bah oui, mais pourquoi ce doute dans votre voix ? C'est très désagréable. Ben non, pour la 500e, j'aurais mis un peu plus de bienveillance de votre part, mais soit. En effet, aujourd'hui, c'est un quiz XXL auquel toute l'équipe va participer. Mais je vous préviens, à la fin, il n'en restera qu'un. Et comme il y a beaucoup de monde sur la ligne de départ, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de pertes. Qui sera le Highlander de l'histoire ? Réponse dans trois quarts d'heure.
Oui, enfin, c'est l'arbitre en général qui reste sur le terrain. Donc vous.
Oui, je pense que j'ai des chances de gagner.
Voilà. Mais pour l'heure, restez bien avec nous. Je vous raconte notre premier personnage du jour.
Europe 1, historiquement vôtre. Le récit, Stéphane Bern.
L'heure est à la fête aujourd'hui sur Europe 1 pour la 500e d'Historiquement Vôtre. Nous sommes au château de Versailles. Un écrin somptueux qui en a accueilli d'autres, des fêtes plus fastueuses les unes que les autres. Je vous raconte maintenant le célèbre bal de Louis XV, lors duquel il fit la cour à la future marquise de Pompadour et qui a pris le nom de son insolite déguisement, le bal des Ifs. Celle que l'on entend là, ce n'est pas une musique de bal, bien évidemment. Allez, dansez le branle, la sarabande, la courante ou la pavane sur un rythme comme celui-là. Ben non, c'est le son des trompes qui annonce l'ouverture de la chasse royale. Prenons un peu l'air avant de revenir au château de Versailles. C'est ce que fait régulièrement le roi de France, Louis XV. Pour s'évader de la vie de cour et de ses contraintes, le roi s'adonne régulièrement à son activité favorite, la chasse. Un beau jour d'été 1743, dans la giboyeuse forêt de Sénat, Louis XV, passionné de vénerie, traque le cerf. La discrétion n'est pas le fort de ces parties de chasse qui se jouent en public. Châtelains et bourgeois suivent fièrement leur souverain. Soudain, le monarque remarque un petit phaéton, sorte d'automobile couleur bleu azur. À l'intérieur, une ravissante jeune femme vêtue de rose soutient son regard. Cette fois, la proie, c'est lui. Le roi est touché en plein cœur. La demoiselle de 21 ans s'appelle Madame d'Étiol depuis son mariage 2 ans auparavant. Son nom de naissance, c'est Jeanne-Antoinette Poisson. C'est une roturière qui s'apprête à faire un saut périlleux dans le grand bain lors du mariage du dauphin. En effet, au mois de février 1745, Versailles est en fête. On célèbre l'union de Louis Ferdinand, le fils du roi de France, avec l'infante Marie-Thérèse, fille du roi d'Espagne Philippe V. Plus qu'un mariage, c'est une réconciliation qui vise à rattraper un couac diplomatique. En 1721, pour consolider la paix entre les deux royaumes, on avait voulu marier la fille du roi d'Espagne au futur roi de France. Mais l'infante était une enfant âgée d'à peine 4 ans qu'on avait finalement renvoyée chez elle. Cette fois, le mariage a bien lieu. Il est célébré le 23 février 1745 dans la chapelle royale de Versailles. Le soir, à l'intérieur de la grande écurie, sur une musique de Rameau, se joue une pièce écrite spécialement pour l'occasion par Voltaire, « La princesse de Navarre ». 2 jours plus tard, Paris entre à Versailles. À 23h30, d'interminables files de carrosses affluent vers le château illuminé. Les grilles sont ouvertes. Pas besoin d'invitation, il suffit simplement d'être déguisé et de donner à l'arrivée son nom à l'huissier. Au total, 1500 personnes ont revêtu leur habit de lumière. Difficile de distinguer les nobles des roturiers sous leurs plumes et leurs turbans. On repère des Turcs, des Persans, des Arlequins et des Pierrots, mais aussi des nymphes et des bergères qui se pressent dans le salon d'Hercule où sont installés de gourmands buffets. Carême oblige, la viande est proscrite, mais les poissons baignent dans leur jus à côté de pyramides de fruits, de gâteaux et confiseries. Le vin coule à flot et clin d'œil à l'infante, des oranges venues d'Espagne sont dispersées sur les tables. Soudain, enfin, les portes du grand appartement du roi s'ouvrent. La fête peut commencer, elle se poursuivra dans la galerie des glaces et sera immortalisée par une sublime gravure de cochon. Les lustres scintillent et diffusent une lumière éclatante qui révèle les dorures des boiseries, se reflète sur les miroirs et exalte les couleurs des peintures. L'air est surchauffé par les corps qui s'agitent et la chaleur des innombrables bougies. Marie Lijinska, la femme du roi, arrive en grand habit de cour. Comme la plupart des rois de France, Louis XV a pris une ribambelle de maîtresse. La dernière en date, la duchesse de Châteauroux, vient de mourir. Mais alors, la place est donc libre ? Les têtes poudrées remuent dans tous les sens. Les dames se marchent sur les pieds, se précipitent pour voir et surtout être vues de celui qu'on dit être le plus bel homme de France. Après la reine, viennent les jeunes mariés, le dauphin et la dauphine, déguisés en bergers. Puis le duc et la duchesse de Chartres. Mais, sacrebleu, où se cache le roi ? Pour patienter, les hôtes boivent du champagne. C'est le roi lui-même qui, après l'avoir adopté pour soigner sa neurasthénie, en a lancé la mode en France. Mais attention, l'alcool est à consommer avec modération. Il cause notamment des troubles de la vision. Les convives en auraient-ils abusé ? À travers les fenêtres, ils voient en tout cas le jardin se mettre en mouvement. Les arbres du parc avancent vers eux. Les conifères entrent dans le château. Ce sont des ifs, au nombre de 8, aussi touffus les uns que les autres. À y regarder de plus près, on remarque des fentes sur leur grosse tête en forme de boule, pour les yeux et la bouche. À l'intérieur de ces étonnants déguisements qui rendent hommage au jardinier André Le Nôtre, se cachent des hommes dont le plus important du royaume.
« Je te connais, bel arbre, je te connais. »
Une bergère s'accroche à l'un des ifs et ne le lâche plus. Dans l'antichambre de l'appartement du roi, elle s'offre à cet arbre aux feuilles ébouriffées, à ce conifère qui respire fort pour une union des plus champêtres. Une fois leur affaire terminée, les amants harassés retournent ensemble vers le bal, quand soudain, Louis XV apparaît non masqué. La jeune femme ouvre grand les yeux et la bouche, estomaquée, et réalise ce qui vient de se passer, ou plutôt ce qui ne s'est pas passé. Son if, un écuyer du roi, rit aux éclats et disparaît. Le roi, le vrai cette fois, est en quête d'une demoiselle et il sait laquelle. Celle qu'il avait croisée dans la forêt de Sénart alors qu'il chassait le gibier. Ah la voilà, rayonnant dans un déguisement de Diane Chasseresse. Louis XV s'approche de sa poisson et l'attrape dans ses filets pour une cour royale à laquelle personne ne pourrait résister. Et les arbres ne se sont pas couchés. La mascarade réjouit le roi. S'il se joue de ses convives, occupés à danser quadrilles, menuets et passe-pieds, il est lui-même mené en bateau par Jeanne Poisson. La demoiselle badine. Après avoir semé Louis XV dans la foule, elle laisse tomber, par mégarde, un petit mouchoir en dentelle. Le roi s'empresse de le ramasser avant de lui rejeter. Témoin de la scène, quelques seigneurs s'écrient « Le mouchoir est jeté, le mouchoir est jeté !» La messe est dite. Les festivités ne s'achèveront pas avant 8h30 le lendemain matin. L'histoire d'amour, elle, ne fait que commencer. Quelques jours après, c'est Paris qui rend hommage au dauphin fraîchement marié. La capitale donne un bal à l'hôtel de ville. Au cœur de la nuit, le roi y retrouve sa belle. Incognito, dans son domino noir, il la raccompagne à sa demande chez sa mère. Que s'est-il passé dans l'intimité du fiacre royal, au milieu des encombrements de Paris ? L'histoire ne dit pas si le roi mit de côté sa galanterie. Dès lors, les rencontres se multiplient. En septembre 1745, Louis XV installe Jeanne Poisson, plutôt Madame d'Étiole, devrais-je dire, même si son mariage n'intéresse guère son amant, à Versailles, dans un appartement situé juste au-dessus du sien. Il peut y accéder par un escalier dérobé. Au mois de juin, il lui fait don du domaine de Pompadour et l'élève au rang de marquise avant de l'introduire officiellement à la cour. Pendant 20 ans, la marquise de Pompadour sera sa confidente, pour le meilleur et pour le pire. Après la défaite de la France dans la guerre de 7 ans, la popularité des amants est au plus bas. Résultat, le roi passe du statut de bien-aimé à celui de mal-aimé. En 1757, il est même victime d'une tentative d'assassinat. C'est la première fois depuis Henri IV qu'on ose attenter à la personne sacrée du roi. En 1764, la Pompadour meurt de la tuberculose, mais le bal continue. Les favorites des rois de France se succèdent et parfois se ressemblent un peu. C'est une roturière qui la remplace dans le cœur et dans le lit du roi. Jeanne aussi, mais cette fois du Barry. Chassée de Versailles par Louis XVI, qui n'aura lui jamais de maîtresse, elle reste la dernière favorite officielle d'un régime sur le point de sombrer. Vous l'aurez compris, la fête est finie.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Louis XV avec Clémentine Portier-Kaltenbach, mais aussi Virginie Giraud et Yvan Jacob, nous sommes ici même au château de Versailles avec l'un de ceux qui connaît le mieux tous les secrets du château. Bonjour Raphaël Masson.
Bonjour Stéphane.
Raphaël, vous nous recevez en effet chez vous, puisque vous êtes conservateur en chef du patrimoine au château de Versailles. Dans la nuit du 25 au 26 février 1745, c'est donc ici au château que s'est tenu le fameux bal des Ifs. Cette pratique du bal costumé et masqué était courante, n'est-ce pas, au XVIIIe siècle ?
Alors, c'est une pratique qu'on voit assez régulièrement, mais là, elle se tient dans le cadre restreint de la cour, voire de la famille royale seule. On voit que le roi, quelques jours avant, va à un bal costumé chez mesdames, donc chez ses filles, où il reste masqué d'ailleurs toute la soirée. Mais là, le fameux bal des Ifs est un bal un peu particulier parce qu'il est ouvert, comme vous l'avez dit, il est ouvert à tout le monde. C'est-à-dire que chacun peut se présenter au château. C'est une des rares fois où l'ensemble des personnes qui arrivent au château peuvent participer complètement à un événement, puisque nous sommes dans des jours de fête, hein, on marie l'héritier du trône, donc c'est à ce moment-là qu'on peut, c'est une occasion rêvée d'accéder aux divertissements qui d'habitude sont réservés à une certaine élite.
Clémentine ?
Le fait que ce bal soit ouvert à tous, est-ce que c'est la particularité d'un bal dynastique lié au mariage du dauphin, ou est-ce que c'était le cas d'autres bals?
Non, justement, là vraiment c'est spécifique à ce genre de festivités. Alors il y a d'autres cérémonies qui sont beaucoup plus régies par les règles de l'étiquette. On pense notamment au bal paré qui n'a rien à voir, qui est un bal de cour, qui est quelque chose d'extrêmement codifié et auquel le grand public n'a absolument pas accès. On va peut-être presque parler d'un spectacle, mais là, c'est vraiment, il suffit d'être masqué et de se nommer pour arriver. Donc, on assiste à des embouteillages absolument monstrueux dans le château. Et le duc de Luynes, qui a été un des grands chroniqueurs qui raconte cette soirée, dit qu'à un moment, on pouvait presque traverser la galerie des glaces entièrement sans avoir à poser le pied par terre. Donc, ça donne un peu l'idée du joyeux chahut qu'il y avait à ce moment-là.
Yvan.
Oui, et ce soir-là, on croise des nymphes, des arlequins, il y a des bergères, des persans. Est-ce qu'il y a une sorte de concours du costume le plus extravagant et qui l'emporte, selon vous ?
Alors, concours, je ne sais pas. Celui qui l'emporte, bien sûr, c'est le roi, avec son déguisement d'if un peu inattendu. Et puis, d'ailleurs, on le voit très, très bien sur la gravure de Cochin. En même temps, l'extravagance des costumes était quelque chose qui était assez largement pratiqué. On le voyait déjà depuis les temps reculés, hein, depuis le XVIe siècle, XVIIe siècle, quand il y avait des grands bals ou des spectacles chorégraphiques auxquels les courtisans participaient. Il y avait vraiment des débauches de costumes. On a gardé quand même un certain nombre de dessins assez improbables. On pouvait voir des personnages illustres, costumés en langoustes, en instruments de musique, enfin des choses en monstres des forêts, enfin des choses tout assez improbables, mais ça fait partie de cette tradition. Là, je pense que c'était un peu plus assagi au XVIIIe siècle, mais ça restait quand même assez sympathique et le coup d'œil devait être assez féerique.
On est un peu moins excentrique cet après-midi.
On n'est pas en langouste.
Non, on n'est pas en langouste.
Oh, moi, quoi, je suis pas loin.
Quoique Clémentine a fait fort en cardinal. Ce 25 février 1745, Louis XV fait donc une entrée spectaculaire dans la Galerie des Glaces, déguisée en if avec 7 compagnons. Ce roi est décrit comme mélancolique, sérieux. Cette fête, pour lui, c'est un devoir, j'imagine, qui est lié à sa charge. Est-ce qu'il prend tout de même du plaisir à participer à ce genre de célébration ?
Alors, de toute façon, effectivement, il n'a pas le choix. Il faut que les festivités soient les plus grandioses possibles. Ce n'est pas tous les jours qu'on marie l'héritier du trône. Mais en même temps, Louis XV, à cette date-là, il a 35 ans. C'est un homme encore jeune, assez beau. Et il s'amuse beaucoup. On le voit courir les bals, alors que ce soit les bals dans la ville de Versailles. Hein, il y a des bals payants comme ça. Alors, il y va incognito. Le fameux soir du bal de l'hôtel de ville, quelques jours après, il est d'abord allé danser à Versailles, ensuite au bal de l'opéra et se retrouve à 3h du matin à l'hôtel de ville. Il va rentrer à Versailles pour attraper, il n'y a pas d'autre mot, attraper la messe à 8h et se coucher à 9h et se réveiller à 5h. Donc on voit vraiment que c'est un roi qui fait la fête, qui aime beaucoup ces situations d'incognito dans lesquelles il est, parce qu'il est toujours masqué, il n'est jamais reconnu hein, dans ses bals. C'est ce qui fait d'ailleurs tout le plaisir. Mais on voit quand même un roi qui aime s'amuser, qui aime danser. Donc il faut revoir un petit peu le côté neurasthénique du roi, qui est une de ses caractéristiques aussi, mais je pense qu'il n'a pas eu vraiment à se forcer en inventant ce déguisement d'if et de faire son entrée sensationnelle dans la galerie.
Virginie ?
Ce soir-là, les femmes se pressent pour obtenir les faveurs du roi, puisque sa dernière maîtresse vient de mourir. Pourtant, Raphaël Masson, le statut de la favorite, c'est quelque chose de compliqué, c'est fragile, c'est pas officiel. Est-ce qu'il y a des privilèges particuliers pour la favorite ?
Alors effectivement, c'est une position quasiment intenable. Hein. Ça, on le sait bien. Et je pense qu'elles ont toutes tremblé jusqu'à la fin d'être disgraciées du jour au lendemain. Mais en même temps, évidemment, il y a des privilèges. C'est-à-dire qu'on a l'oreille du roi et donc on devient une pièce qui compte à la cour. On devient un personnage qui compte et donc on voit Madame de Pompadour qui a une véritable cour autour d'elle puisqu'elle peut, elle est un canal comme un autre. On peut aller voir un ministre aussi, mais la favorite aussi est un canal pour avoir l'oreille du roi, obtenir faveur, pension, etc. etc.
Mais elle apparaît donc le soir du bal des Ifs en Diane Chasseresse. Elle, est donc, elle devient par la suite marquise de Pompadour. C'est la plus célèbre, la plus puissante aussi des favorites royales. Leur relation, elle deviendra sa ministre de la culture, en quelque sorte.
On peut voir les choses comme ça, effectivement, parce que leur relation va évoluer. Au fil du temps, elle va être, on va dire, à peu près 5 ans, la maîtresse officielle, et elle va devenir progressivement l'ami. On sait que la relation va se modifier. Il n'y aura plus qu'une relation, je dirais presque platonique, hein, qui va s'instaurer entre les deux. Mais peut-être, par là même, elle sera plus solide. Quoique, en 1757, au moment de l'attentat d'Amiens, on va chercher à éloigner Madame de Pompadour. Elle va avoir vraiment, vraiment très peur d'être disgraciée. Et finalement, le roi, qui est un homme d'habitude, va la garder et la pleurera. Il va, quand elle va mourir en 1764, il va avoir un chagrin réel, ça on le sait. Il va, on sait qu'il suit le corbillard qui s'éloigne depuis la fenêtre de son cabinet. Hein. Il va voir et en disant voilà, je ne peux même pas lui. Voilà les seuls hommages que j'ai pu lui rendre. Hein, voilà. Et donc il y a une relation tout à fait particulière, un peu inédite, entre le roi et sa favorite, avec Louis XV et Madame de Pompadour.
Clémentine.
Mais la relation entre le roi lui-même, enfin la reine plutôt, la reine elle-même et Madame de Pompadour est également inédite d'une certaine manière, parce que c'est la première fois que Louis XV a une maîtresse non titrée et que précisément pour la reine, il est d'une certaine manière moins humiliant, me semble-t-il, enfin c'est ce qu'on dit toujours, d'avoir pour adversaire ou pour ennemi une femme que d'une certaine manière elle pourrait mépriser par sa hauteur. Et finalement, Madame de Pompadour a quand même l'intelligence de garder son quant à soi. Qu'en était-il de la vraie nature de la relation de ces femmes à cet égard?
Alors, Marie Leczinska déteste de toute façon Madame de Pompadour.
Mais comme ça, les précédentes.
Comme les précédentes, c'est évidemment la rivale. En même temps, Madame de Pompadour, qui a tout à consolider quand elle arrive, elle ne connaît personne, elle n'a pas les usages de la cour, donc elle va être très attentive à ne pas traiter les gens de haut et surtout avoir vis-à-vis de la reine, une attitude, je dirais, politique. Hein. C'est-à-dire qu'elle va essayer, on voit bien qu'à ce moment-là, le roi s'est détaché de la reine, elle va essayer de pousser le roi à donner certaines marques d'attention que la reine n'était plus habituée à recevoir. Elle va vraiment essayer de rapprocher le couple royal et Marie Leczinska, elle accepte finalement cette relation puisque les équilibres sont assez bien respectés. Madame de Pompadour ne va pas outrepasser ce qu'elle ne doit pas faire et donc Marie Leczinska aurait dit plutôt celle-là qu'une autre. En tout cas, voilà, vaut mieux celle-ci. Mais les relations sont quand même compliqué, surtout vis-à-vis de la famille aussi et des enfants qui ne la supportent pas également.
Un dernier mot, Raphaël Masson, aujourd'hui encore, on entretient à Versailles le souvenir du bal des Ifs, puisque des bals masqués se tiennent chaque année au château de Versailles. C'est une tradition qui perdure, que vous aimez, vous-même, vous y participez?
Alors non,
vous êtes obligé de vous déguiser?
Non, on n'est pas obligé de se déguiser du tout. Mais en tout cas, oui, il y a depuis quelques années une reprise de ces grandes festivités, plutôt à l'orangerie, parce que c'est plus vaste, peut-être moins fragile aussi.
On peut se déguiser en oranger.
On peut se déguiser en oranger si on veut. Alors, c'est moins pratique pour danser, je pense. Mais en tout cas, oui, cette tradition, finalement, est remise un peu au goût du jour. Mais elle reste exceptionnelle parce qu'il ne faut pas imaginer qu'on faisait la fête tous les jours à Versailles.
Non, heureusement. Merci beaucoup, Raphaël Masson. Pour en savoir plus sur Louis XV, je vous invite, vous tous qui nous écoutez sur Europe 1, à visiter la très belle exposition que lui consacre le château de Versailles, à quelques pas de la salle des croisades où nous avons installé le studio d'enregistrement d'Historiquement Vôtre aujourd'hui. Et c'est jusqu'au 19 février prochain, donc dépêchez-vous. Il faut vraiment se dépêcher pour voir cette magnifique exposition. Et Virginie Giraud, vous nous parlerez aussi de Madame de Pompadour tout à l'heure.
Oui, je vais vous raconter la suite de l'histoire, son petit théâtre où il n'y avait pas de bal, mais il s'y passait bien des choses.
Eh bien, j'ai hâte de vous entendre.
Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern.
Tous les jours, et ça fait 500 émissions que ça dure, vous le savez, historiquement vôtre, vous raconte l'histoire sans se la raconter. Pour fêter ça, eh bien, nous sommes aujourd'hui au château de Versailles. Jean-Luc Lemoine, vous venez tout juste de mettre le point d'interrogation final à votre quiz qui arrive dans un instant sur Europe 1. Et quel quiz ?
Ah oui, alors aujourd'hui, exceptionnellement, pas d'indice musical, mais un son. Celui qu'entendra chaque membre de l'équipe donnant une mauvaise réponse.
Oula, oh, je connais ça.
Mais je reviens, j'ai aiguisé ma guillotine comme jamais, je serai sans pitié.
Mais avant cet affrontement, je laisse donc la parole à Clémentine Portier-Kaltenbach qui nous raconte des histoires dont elle seule a le secret.
Dans l'intimité de l'histoire.
Aujourd'hui Clémentine, puisque nous sommes au château de Versailles, nous y restons avec vous puisque vous nous racontez la plus musicienne des reines, Marie-Antoinette.
Sans doute la plus musicienne des reines à Versailles. Vous m'auriez parlé du Louvre, là j'aurais plus volontiers évoqué Catherine de Médicis qui adorait danser et qui elle-même était musicienne. Mais ici, oui, c'est Marie-Antoinette. Et Marie-Antoinette, on lui a souvent reproché d'être autrichienne, mais sur le plan de la musique, en tout cas c'était un avantage, une qualité insigne. Parce qu'elle est élevée à Vienne où la vie musicale est extrêmement riche. À l'âge de 7 ans, elle rencontre Mozart à Vienne. Il a un an de moins qu'elle et la légende raconte qu'il lui a demandé de l'épouser. Donc elle va avoir plusieurs professeurs de musique, à commencer par le grand Gluck. Gluck, le grand réformateur de l'opéra qui a donné à cet art une forme de naturel, de vérité dramatique. Eh bien, à 10 ans, c'est une petite fille de 10 ans qui danse sur un ballet, sur une musique composée pour elle et ses frères et sœurs par Gluck. Elle l'a donc connue petite fille et c'est elle qui va le faire venir à Versailles. Et quand elle vient à Versailles, dans les lettres que lui écrit sa mère, elle lui dit « Continuez, surtout continuez à jouer de vos instruments » et sa mère lui envoie des partitions. Alors, elle adore donc la musique, elle en fait plusieurs heures par jour dans les deux instruments rois qui sont à la fois la harpe et le piano. Forte. Quand on veut faire plaisir à Marie-Antoinette, pour son anniversaire, pour ses 19 ans, en 1774, que lui offre-t-on ? Eh bien, une jolie harpe avec un décor de rinceaux, de fleurs et des chérubins. C'est un instrument absolument ravissant qu'on peut voir aujourd'hui encore à Vendôme. La harpe, donc, instrument roi dont elle donne des petits concerts privés dans ses appartements. Et puis, bien, c'est tellement charmant. Il y a des airs majeurs du répertoire de l'époque qui ont d'abord été composés sur la harpe. À Paris, il y a 200 magasins de harpe et une soixantaine de profs de harpe. Elle excelle aussi dans le piano forte. Le piano forte, qu'est-ce que ça signifie ? Piano forte, c'est-à-dire doux et fort à la fois. C'est un instrument qui, contrairement au clavecin, permet de donner des nuances à l'interprétation que la corde pincée du clavecin ne permettait pas. Eh bien, là aussi, à Versailles, il y a un engouement pour ces instruments extraordinaires. On a retrouvé sur une centaine d'instruments que possédait le château de Versailles à l'époque de Marie-Antoinette. Il y avait 26 clavecins, on était encore sur la vieille école, et 17 pianos forte. Et bien sûr, Marie-Antoinette chante, elle chante divinement. Non seulement elle chante des petites romances qui sont un peu ces petites chansons un petit peu simplettes sur des motifs sentimentaux, mais elle compose. Alors malheureusement, on n'a conservé qu'une seule partition de Marie-Antoinette, mais enfin c'est quand même touchant de se dire qu'on a de la musique composée par elle. Et bien sûr, pendant que son mari va à la chasse, lui n'est pas très mélomane, elle est constamment à Paris, à l'Opéra Comique, à la Comédie Française, italienne, et elle a envie d'apporter cette musique à Versailles.
Vous nous parliez de la querelle entre les piscinistes.
Alors là, je n'aurai pas le temps aujourd'hui. J'évoquerai ça dans une autre émission, peut-être à la millième, si vous voulez. Mais en tout cas, quand l'Iphigénie de Gluck est donnée à Paris, Marie-Antoinette y va et elle applaudit. Et ça fait scandale parce qu'on n'applaudit pas à l'opéra. Donc elle crée un précédent et en même temps, c'est elle qui va faire de Gluck une vedette à la cour. Donc elle a vraiment restauré à Versailles une chose disparue qui était cette omniprésence de la musique à toute heure du jour, depuis la messe à 11h du matin, jusqu'au bal le soir. Et il y a de la musique tous les jours. Le lundi, elle reçoit dans ses petits appartements. Le jeudi, c'est la Comédie Française. Le vendredi, c'est l'Opéra Comique. Puis il y a le grand opéra 5-6 fois par an. C'est elle qui remet de la musique au grand souper du roi. C'est elle qui refait donner des concerts dans les jardins. Elle est également, elle adore la danse. On a abandonné le menuet qu'on voit dans les pièces de Molière. C'est pour les vieux, pour les jeunes comme Marie-Antoinette. C'est la contredanse et le quadrille. Donc, voyez, Voyez-vous, la danse à Versailles doit beaucoup à Marie-Antoinette. Nouveau répertoire, nouveau compositeur, et évidemment, encouragement des luthiers, des facteurs d'instruments, naturellement. Et de cette passion pour la musique, je disais qu'on a conservé une harpe, mais on a conservé aussi un témoignage extrêmement touchant. C'est la joueuse de tympanon. Vous connaissez cet automate. C'est un automate qui a les traits de Marie-Antoinette et qui joue des airs de Gluck, qui lui a été offert en 1784. Elle est la propriété des arts et métiers, cette joueuse de tympanon. Elle fait régulièrement des apparitions dans le monde entier. C'est un très émouvant souvenir de celle qui fut tout à la fois la plus tragique sans doute, mais aussi la plus mélomane de nos reines de France.
Merci beaucoup Clémentine. Et maintenant, on continue de fêter la 500e d'Historiquement Vôtre sur Europe 1 depuis le château de Versailles. C'est le moment de l'émission, vous le savez, on ne contrôle plus rien, mais surtout moi. Aujourd'hui, plus encore que les autres jours, puisque Jean-Luc, vous prenez la main avec un quiz particulier. 500e émission oblige, un Born to be Alive XXL, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire que l'histoire s'ouvre au monde. La bataille ne concerne plus uniquement vous et Clémentine, mais la totalité des chroniqueurs d'Historiquement Vôtre. Oui, ça nous promet une bataille épique. Tout le monde est prêt ? Hein ? Ouais. Tout le monde a un couteau entre les dents ?
On est au taquet, d'accord.
Alors mes amis, jouons ! Le principe est simple, je pose une question par personne. Soit vous trouvez la bonne réponse et vous êtes qualifié pour la phase finale, soit c'est la mauvaise réponse et le coup près tombe, c'est l'élimination directe.
Bon.
Alors, j'explique quand même, j'ai repris les meilleures questions du quiz en 500 émissions. C'est parti. Une question pour monsieur Philippe Charlier.
Ça commence mal.
Ça commence mal, il a confiance. Nous sommes en décembre 2008. Montazer Al-Zaidi, journaliste irakien, marque l'histoire. Il lance sur George W. Bush, pendant une conférence de presse, ses deux chaussures. Pour rendre hommage à cet événement, il a été érigé une sculpture géante. Elle représentait quoi, cette sculpture ? Une chaussure ? Deux chaussures ? Ou un chausse-pied ? On a déjà perdu Philippe.
J'essaye d'imaginer à quoi peut ressembler ce monument. Loufoque. Allez, on va dire deux chaussures.
Est-ce que vous allez entendre le son de la guillotine ou vous allez être qualifié pour la phase finale ? On vérifie tout de suite.
Vous avez perdu.
En tout cas, ça fait mal.
Merci d'être passé, Philippe. Ça fait tellement plaisir. C'était une chaussure.
Vous aviez choisi une question vraiment dans ma spécialité. Je vous en remercie.
Je suis désolé, je n'avais pas de question sur la putréfaction.
Eh bien, c'est bien dommage.
C'était une chaussure, une sculpture de 3 mètres de haut sur 2,50 mètres de large. Apparemment, elle a été retirée un mois après. Une question maintenant pour Monsieur Pouls, Olivier, de son prénom. Vrai ou faux ? La première recette de dentifrice date de 400 avant Jésus-Christ.
Mais c'est carrément plus simple, ça. C'est pas juste.
Je m'adapte à Olivier. Je m'adapte, vraiment. Et Olivier, ne vous vexez pas. Si je vous pose une question dentifrice, ça aurait très bien pu tomber sur Stéphane Bern. Alors
400 avant Jésus-Christ.
Exactement.
Oui, je pense que c'est vrai. Je pense qu'on se lavait déjà les dents à cette époque-là.
Alors, on l'avait probablement. Est-ce que c'était du dentifrice ?
Oui, je pense qu'on avait du dentifrice, oui.
Oui, c'était pas de la cendre avec de l'aloès ou avec de l'eucalyptus, quelque chose.
Je pourrais pas vous donner la recette, mais je le sens bien.
En tout cas, il y a visiblement la dame du téléshopping qui est là. On vérifie la réponse.
Vous avez gagné.
Vous avez gagné, vous êtes qualifié pour la phase finale. On a retrouvé cette recette sur un manuscrit égyptien. Le dentifrice était composé de sel, de poivre, de feuilles de menthe et de fleurs d'iris.
Ça va bien fonctionner pour la laine.
C'est bon. C'est parfait. Une question maintenant pour Virginie Giraud.
Est-ce que vous allez être gentil avec moi, Jean-Luc ?
Toujours, vous êtes ma favorite.
Merci.
Alors, d'ailleurs, hasard total, hein, cette question, c'est le hasard, porte sur les prostituées de la Grèce antique. Ces dernières avaient un outil marketing très étonnant. Certaines d'entre elles avaient des sandales qui, lorsqu'elles marchaient, laissaient sur le sol l'inscription « Suis-moi ». Vrai ou faux ?
Je n'ai pas la réponse, donc je vais devoir faire une espèce de déduction logique. Ça me paraît assez malin, donc je dirais que c'est vrai.
Oh, vous avez un petit doute ? Vous restez sur vrai ?
Oui.
On vérifie.
Vous avez gagné !
Bravo ! En tout cas, on regrette toujours Philippe Charlier, qui est le seul à avoir quitté ce jeu.
En deux morceaux.
J'arrive. On va le rejoindre.
Voilà. Non, en tout cas, c'était vrai. Ça marquait « Acoluti » et ça voulait dire « Suis-moi ».
J'attends que David Castello-Lopez me rejoigne tout de suite.
Une question pour Ivan. Ivan Jacob.
Je connaissais la réponse de la précédente.
C'est vrai, vous la connaissiez ?
Eh bien, c'est bon, vous êtes qualifié.
Merci.
Eh bien, non. Alors, est-ce que vous connaissez aussi les taxis de la Marne de la Première Guerre mondiale ?
Oui.
Et, écoutez, les taxis, ils ont servi à amener les fantassins sur la ligne de front. Aujourd'hui, quand on prend un taxi, il y a le compteur qui tourne. Eh bien, à l'époque aussi. C'est-à-dire qu'il a fallu payer la note de taxi pour les 5000 personnes qui furent déplacées. Vrai ou faux ? Est-ce qu'ils ont fait tourner les compteurs ?
Bah, il a bien fallu les rémunérer, ces gens qui ont transporté des... Oui.
Ça peut être
oui.
Aussi pour la nation, vous
oui, savez. Mais bon, oui. Je dis oui.
Vous dites oui ?
Si. Il a fallu régler la facture à Walewski, qui était le propriétaire d'une des deux compagnies. Si, elle a raison.
On vérifie. Ah,
parce
en tout
que Philippe Charlier me fait non avec des grands signes.
Je pense que je vous rappelle que Clémentine...
Je vous rappelle que vous avez la tête coupée, déjà.
C'est ça, exactement. Et il n'a pas trop la ramener, Philippe Charlier. On vérifie.
Vous avez... gagné.
Allez. Et toc.
Il faut toujours faire confiance à Clémentine.
Décapité deux fois.
Et bah justement, maintenant on va passer à Clémentine. Jacob C. Miller a participé à la guerre de sécession. Si son nom est resté dans les annales, c'est parce qu'après une explosion, choqué, il a voulu reprendre la bataille, mais contre le camp adverse. Vrai ou faux ?
Il aurait été estourbi par le blast. Et donc, il est parti du mauvais côté. Il s'est mis à tirer sur ses copains.
Voilà, c'est ça.
Non, je ne pense pas. Je pense qu'il a dû faire autre chose d'étrange.
Parce que j'ai dit le camp adverse, en fait, c'est son propre camp. Hein, vous avez compris.
Non, je ne pense pas. Je pense qu'il a fait quelque chose d'autre. Vous allez nous révéler, mais pas ça.
D'accord, très bien. M'engueulez pas non plus. On vérifie la réponse.
Vous avez... gagné !
Bravo ! Non, en fait, on se souvient de Miller à cause de son trou de balle. Il a reçu une balle entre les deux yeux et de façon miraculeuse, ça ne l'a pas tué. 17 ans après, des petits débris de métaux sortaient encore de son trou de balle. Et les derniers morceaux, 31 ans après.
Extraordinaire.
Et Philippe Charlier est effondré.
Oh non, croyez-moi, il en a vu d'autres.
Il en a vu d'autres.
C'est trop de balles.
Alors, je vous rappelle que pour l'instant, il y a un éliminé qui a misé sur son camarade David Casselopez pour le rejoindre. On va vérifier ça tout de suite. David, est-ce que le Walkman, vous qui êtes spécialiste des origines, est-ce que le Walkman a été inventé suffisamment à temps pour que Charles de Gaulle puisse s'en servir ? Bon, en imaginant que Charles se rende au Japon pour acheter un prototype.
Non, Charles de Gaulle n'a pas pu connaître le Walkman.
Attention.
Ça sent le piège.
Ouais. Ça, c'est très piégeux.
1970, le Walkman, c'est, je crois, 1977, 18, 19. Enfin, c'est pas le début des années 70.
Vous dites ?
Je dis donc que Charles de Gaulle n'a pas pu connaître le Walkman.
Vous dites non, on vérifie.
Vous avez gagné.
Et vous avez compris qu'en face, elles vous veulent du mal.
Mais il avait fait d'ailleurs les oreilles du groupe.
Oui, il y a longtemps. Ouais.
Donc c'est quand même franchement une question.
Oui, ça c'est vrai. Alors là, tout à fait.
Traité lui-même, bravo.
On va passer à la finale maintenant.
Non, il y a une question pour Stéphane Bern. Et je voudrais juste préciser quelque chose. Vous l'avez bien dit, David. Charles de Gaulle est mort le 9 novembre 1970 et le premier Walkman date de 1979.
Oh, quel talent,
bravo.
Alors,
c'est juste pour caser
la question,
date
c'est
de
surtout,
mort de...
est-ce que notre maître à tous va passer en finale ou
je
être éliminé
pas.
Une question sur votre domaine de spécialité, les faux culs. Stéphane, les faux culs sont apparus sous Louis XIV, Louis XV ou Louis XVI. Je parle bien évidemment du mot désignant le rembourrage fessier des dames.
Je dirais Louis XV, mais...
Alors, d'après vous, Stéphane, Louis XIV, Louis XV ou Louis XVI pour l'apparition des faux culs ?
Il y a beaucoup de faux culs sous Louis XV. Il y en a pas mal sous Louis XVI aussi, mais...
Vous choisissez quoi au final ?
J'hésite entre Louis XV et Louis XVI.
Je proposerais bien de vous aider, mais ça porte pas très chance.
Oui. Non, je vais dire Louis XVI, tiens.
Louis XVI ! Ça devrait être une formalité pour le spécialiste de l'histoire que vous êtes.
Non.
Vérifie quand même.
Je vais me faire couper la tête.
Vous avez
et
perdu.
Voilà.
C'est tout à son honneur. Il ne voulait pas laisser Philippe tout seul.
Voilà,
non, c'était Louis XIV.
Ah oui, carrément.
Louis XIV, le mot faux cul est arrivé sous Louis XIV, même si certains le faisaient déjà au XVIe siècle. Et écoutez, on va jouer la grande finale, mes amis.
Alors, il nous reste qui en lice ?
Il vous reste David, il nous reste Olivier, Ivan, Virginie et Clémentine. Vous êtes prêts ?
On est prêts. Ouais.
Allez, en début d'année dernière, une belle mise aux enchères a été organisée au profit de Stéphane Bern, dans le but de financer les travaux de son pigeonnier. Un tableau de la grand-mère de Marie-Antoinette était proposé, mais aussi et surtout, deux paniers pour chiens provenant de Buckingham Palace. À combien en euros sont partis les deux paniers pour chiens ? Celui qui s'approche le plus remporte ce quiz.
800.
800 à ma gauche.
pouvez répéter, si vous voulez.
Stéphane Bern a mis en vente deux paniers pour chiens pour le nom de Buckingham Palace.
Stéphane Bern, hein ?
Stéphane Bern, oui. Le Stéphane Bern.
Stéphane Bern, il est ici à la table. Oui.
Exactement. Donc, il a mis en vente deux paniers pour chiens pour le nom de Buckingham Palace, à une vente aux enchères. C'était pour financer les travaux du pigeonnier. Combien il y a eu avec tout ça ?
C'est vendu en lot, les deux.
Oui, les deux étaient vendus en lot, je crois.
Alors, j'ai 800.
Je fais une enchère à 2800.
2800.
Moi, j'aurais dit 1500.
1500.
Je dis 1200.
1200.
5000.
5000. Mais Stéphane aurait tellement aimé.
Ou j'aurais adoré.
Et Stéphane, est-ce que vous vous rappelez du résultat ? 400. 400. Donc, la grande gagnante de ce quiz est Clémentine Portier-Kaltenbach.
Et c'est elle qui les a achetés, les paniers.
Oui.
Et
oui. Vous pouvez dire, est-ce que vous avez été déçu par ces 400 euros ?
Non, parce que après, vous vous regardez dans la totalité.
D'accord.
Voilà. Non, je devais payer moins cher.
Félicitations, Clémentine.
Merci. Bravo, Clémentine.
Bravo, Clémentine. Bravo.
Happy birthday.
Tout cela est ridicule.
Tout cela, madame, c'est Versailles.
La 500e d'Historiquement Vôtre.
Happy birthday to you.
Depuis le château de Versailles.
Oui, c'est très beau, Versailles, mais c'est peut-être un peu trop beau.
Est-ce qu'il y a un bal ?
Vous pourrez danser.
Stéphane Bern.
Je suis loin d'être seul et je suis plutôt très bien accompagné déjà par le public qui est présent dans la salle des croisades du château de Versailles. Où nous avons le plaisir et l'honneur de célébrer la 500e émission d'Historiquement Vôtre cet après-midi sur Europe 1. Oui, déjà, 500. Et ils sont 7, ils sont avec moi, plus beaux que jamais, dans leur costume de bal.
Oui, si, vous êtes très beau, Stéphane.
Merci, Virginie, merci. Bon, El Fayot, c'est normal, c'est la dernière arrivée. Virginie Giraud est avec nous aujourd'hui, mais aussi, alors vous êtes pigeonnante, c'est très bien, comme Ivan Jacob aussi, vous avez mis de très belles robes à la française. Vous avez de beaux bijoux.
Oui.
Oui. Et puis une coiffure un peu 19e quand même, la coiffure.
Elle fait ce qu'on a pu.
C'est pas mal, c'est pas mal. Et il y a Clémentine Portier-Kaltenbach qui elle est... Alors carrément...
Mais moi aussi j'ondule dans ma robe. Finalement.
Oui, mais enfin vous êtes en soutane. Vous êtes en cardinal quand même, je vous rappelle. Et puis Olivier Pouls, magnifique, avec un très beau jabot en dentelle.
Oui, c'est ça. Ça ne devait pas être très pratique pour manger. Je ne sais pas comment on faisait pour garder sa propre, mais bon, je vais quand même essayer.
Oui, c'est pas un bavoir, hein, c'est un
jabot. Ah bon, c'est pas pour m'essuyer
Non, faites attention. Regardez, vous êtes assorti avec Jean-Luc Lemoine, très élégant aussi, avec votre gilet, votre pourpoint.
Il y a plus de perles que
moi. Ouais,
perles.
Exactement,
beaucoup de perles.
Le roi de la perle.
Ça lui va très bien, je trouve.
Merci beaucoup.
Philippe Charlier est magnifique, avec un gilet rebrodé de fleurs roses et vertes.
Je viens de finir d'autopsier Louis XV, j'ai encore des petits bouts sur les manches.
Et puis alors, David, vous êtes en jaune, vous êtes un bouton d'or.
En doré, plutôt.
Vous êtes en doré.
Un soleil.
Oui, vous êtes un soleil. Et le seul perruquier.
Exactement.
Ça tombe bien.
Exactement, ça tombe bien.
Parce que vous allez parler de
l'origine du perruquier. C'est pas vos vrais cheveux.
Non.
Il serait dense, mais un peu grisonné.
Enfin, on se disait pour une fois que vous êtes bien coiffé.
Et voilà, c'est ma fête aujourd'hui.
En tout cas, vous pouvez nous voir en vidéo sur le site internet et évidemment sur les réseaux sociaux d'Europe 1. Et comme chaque jour, ils sont là aussi. Ce sont nos personnages qui n'auraient jamais pu se croiser, mais qui ont un point commun. Et c'est pour cela qu'on les réunit cet après-midi pour une émission spéciale. Trois personnages qui ont ouvert le bal. Après Louis XV, on quitte Versailles quelques minutes seulement. Direction Venise, avec notre deuxième personnage du jour.
Europe 1, historiquement vôtre. Le récit, Stéphane Bern.
Au milieu du XXe siècle, un collectionneur extravagant organise dans un palais qu'il vient d'acheter une soirée hors norme et hors du temps qu'on appelle modestement le bal du siècle. Je vous raconte l'incroyable pendaison de crémaillère de Charles de Bestégui. Chérie, regarde le courrier, elle est là. Oui, elle est là. L'invitation la plus attendue des mondains. Pour le gratin du monde entier, en ce milieu du XXe siècle, ce carton vaut de l'or. Des vendeurs crapuleux tentent même d'en écouler au marché noir. Sur papier bouffant, blanc et beige, couverture arlequinée, on peut y lire les mots suivants. Bal costumé époque 18e, masques et dominos, le 3 septembre 1951, chez lui, au palais Labia. Chez lui, mais chez qui ? Eh bien, le richissime, l'extravagant Charles de Bestégui, qui organise une pendaison de crémaillère qui va rester dans les annales sous le nom de bal du siècle. L'hôte est né à Paris en 1895 dans la France de la Belle Époque. Il vient d'une famille de Mexicains qui a fait fortune dans les mines d'argent. De l'argent, il y en a donc beaucoup. Après de brillantes études, Charles part pour un tour du monde avec son frère. Il voyage de Londres à Madrid en passant par l'Irlande ou Venise. Il a les moyens de mener la vie qu'il veut et de lui donner un décor. Charles de Bestégui a une passion, l'architecture. En 1929, il commande à Le Corbusier un appartement au sommet d'un immeuble sur les Champs-Élysées. Pas pour y habiter, non, simplement pour y recevoir et montrer à tous son goût inimitable. Il conçoit lui-même l'intérieur, cheminée baroque, commode rococo, siège Napoléon III, statues et lustres vénitiens. Pour loger sa folie des grandeurs, Bestégui a besoin d'un palais, d'un château. Alors il achète celui de Grousset, près de Paris, à Montfort-l'Amaury, et profite de ce que ce monument ne soit pas encore classé monument historique pour l'aménager de fond en comble. Nostalgique cosmopolite, il mélange les styles italiens, russes, français et anglais du siècle précédent. Sa salle de bal est hollandaise. Le mobilier Louis XVI côtoie le Second Empire. On ne distingue pas les vrais des faux. Aujourd'hui encore, les décorateurs s'inspirent du goût Bestégui. En 1948, Charles de Bestégui achète le palais Labia à Venise. Il veut se souvenir, comme il le dit lui-même, dans un monde amnésique détruit en partie par les crises et les guerres. Il se lance dans un chantier de rénovation hors normes. Miroirs, brocarts, velours, chandeliers en verre de Murano prennent place au mur, au sol, au plafond. Des fresques de Tiepolo représentant Antoine et Cléopâtre sont accrochées dans la salle de bal. Les travaux terminés, Bestégui veut célébrer et il ne le fait jamais en petit comité. Ses maîtres mots sont faste et démesure. Il convie donc du monde et du beau monde en ce 3 septembre 1951. Vers 22h, 400 gondoles, flottis ou jonques, se ruent vers la somptueuse façade baroque à l'angle du Grand Canal et du Canareggio. Le tout Paris, le tout Londres, le tout Hollywood a fait le déplacement. Costumés, pomponnés, perruqués, les 900 invités de marque débarquent sur un ponton imitant une savonnerie du XVIIIe siècle. Cléopâtre et Marc-Antoine ouvrent le cortège des entrées. Ce sont les costumes de Lady Diana Cooper et du baron Frédéric de Cabrol qui imitent les fresques de Tiepolo. Viennent ensuite les quatre saisons. Ce sont des princesses italiennes. On voit encore la duchesse de Polignac en chevalier d'Éon, espion travesti de Louis XV. Soudain, la boyeur annonce le Tresignore Bianche. Trois femmes identiques en robe blanche, perruque de la même couleur, le visage dissimulé derrière un masque noir, font une apparition remarquée. Jacqueline de Ribes, 22 ans, une grande amie de Bestégui, a décidé d'être trois fois elle. La femme la plus élégante du monde, Daisy Fellows, est de la partie. Elle est en reine des Indes, imaginée par Christian Dior. Le créateur est là aussi, évidemment, tout comme Dali qui vient accompagné de Gala. L'artiste est saisissant, en fantôme de Venise avec des bas fluorescents. Les écrivains Mauroy et Mauriac rencontrent les cinéastes Visconti et Orson Welles. Si le réalisateur de Citizen Kane n'a pas reçu son costume à temps, sa coiffure d'autruche fait tout de même sensation. À l'intérieur du palais, de son regard bleu d'acier, Charles de Bestégui regarde ses amis arriver. Pour l'occasion, l'hôte a revêtu un costume de procurateur de Venise, un gigantesque manteau de brocart de soie rouge, aux manches tombantes jusqu'aux genoux et orné de motifs flamboyants. Il porte une immense perruque et des souliers surélevés appelés des cothurnes à la mode au XVIIIe siècle. Perché sur 40 cm de talons, il domine la foule qui crie son nom « Don Carlos » sous un tonnerre d'applaudissements. Une fois le défilé des invités terminé, le bal peut commencer. On est déjà à demain. Jazz, foxtrot, rumba et charleston, la fête bat son plein jusqu'au petit matin. Impossible de se rappeler, aller voir sans canailler que l'Europe sera peine de la guerre. Présent au bal du siècle en 1951, Jean Cocteau écrira « Bestégui n'avait pas invité la méchante fée, le journalisme. » Quelle est votre réaction quand vous n'êtes pas invité à une soirée? Soyez honnête, vous dénigrez. Eh bien, c'est exactement ce qu'a fait la presse. Certains jouent sur le contraste de la soirée avec le contexte d'après-guerre. Comment ose-t-il se goinfrer d'écrevisses et de jambon alors que l'Europe entière est sujette aux privations? Faire couler le champagne à flots alors que le sang répandu est encore frais? D'autres racontent que la fête était nulle, annulée, aucune pluie battante est venue la gâcher. Charles de Bestégui n'en a que faire. Dès le lendemain, la soirée est qualifiée de bal du siècle. Certains ont pu couvrir l'événement le plus glamour de l'année.
The party turned out to be the ball of the century. Guests vie with each other in the rich splendor of their costumes.
Mais l'hôte a refusé 8 millions de dollars que lui proposaient les Américains pour filmer la soirée, préférant le dessinateur Alexandre Serebriakov et les photographes Robert Doisneau et Cecil Beaton pour immortaliser l'événement. C'est ce dernier qui compare Bestegui à l'un des personnages les plus extravagants de l'histoire, le roi Louis II et ses incroyables châteaux de Bavière, les deux hommes partageant la folie des grandeurs. L'écrivain Paul Morand écrira plus tard « Notre fastueux ami B avait décidé de tenir tête au temps. Reconstituer un palais, c'est dire non au gouffre, c'est comme décrire le temps perdu. Son œuvre terminée, B s'en désintéresserait. » En effet, Bestegui vend son palais vénitien à la radio-télévision italienne en 1964 et se replie dans son château de Grousset. À la fin de sa vie, on le dit vieillard insupportable, victime d'attaques cérébrales, il ne quitte plus son lit. Il meurt en janvier 1970. Présent à la soirée, qu'il ne fut pas, Lagacan écrira « Je ne crois pas qu'il nous soit donné de voir encore quelque chose comme cela. » Effectivement, sans Charles de Bestegui, la fête est désormais finie. Ou presque.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de Charles de Bestegui depuis le château de Versailles, nous avons le plaisir d'accueillir sur Europe 1 celui qui lui consacre une première biographie. Bonjour Thomas Penquin.
Bonjour, merci de me recevoir.
Thomas Penquin, vous publiez la première biographie de Charles de Bestegui, le prince des esthètes. Et dès les premières pages, on est étonné de lire que celui qui a organisé ce fameux bal du siècle était un mondain qui n'aimait pas le monde. Quel homme finalement se cachait derrière son costume ?
Alors oui, effectivement, il y a beaucoup de mystères derrière Charles de Bestegui. Les gens ont gardé le souvenir de lui comme un personnage tyrannique, égocentrique, assez autoritaire, surtout à la fin de sa vie, lorsqu'il sentait ses forces le lâcher. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment le Charles dans la période des années 30, dans l'entre-deux-guerres, lorsqu'il est un jeune homme parisien avec ses amis, les Noailles, les Petit Blunt, et qu'il découvre les artistes de Montparnasse, qu'il se demande vraiment quoi faire de sa fortune, de son temps et de son talent. Là, il commence à dessiner, à écrire, merveilleusement bien d'ailleurs, des petits poèmes. Il a écrit des récits de voyage. Et progressivement, il va essayer de trouver sa place dans le monde et sortir pour lui aussi affirmer son côté mondain, extravagant.
Philippe ?
Ce 3 septembre 1951, il y a des centaines de personnes qui convergent vers le palais Labia à Venise pour le bal costumé, donc qui va rester indéfiniment dans les mémoires. Quel est l'enjeu exact de cette soirée pour Bestegui ? C'est le plaisir, c'est la joie, c'est l'euphorie ?
Ah ben, c'est avant tout le plaisir personnel et celui de ces quelques, son millier d'invités. Mais tout ce qu'il a fait durant sa vie, que ce soit son palais Labia, son bal du siècle bien sûr, mais son château de Grousset, son appartement sur les Champs-Élysées, il le fait avant tout pour lui. Il ne convie quasiment jamais des gens à venir photographier ses réalisations. Aucun journaliste n'est invité à décrire tous ses concepts et ses principes décoratifs. Il le fait vraiment dans un souci de suivre son bon plaisir et uniquement cela. Et c'est ça qui fait qu'il est fascinant.
Mais au Palais Labia, ce soir-là, il y avait des centaines d'invités, on l'a rappelé, mais il y a quand même des Vénitiens qui ont pu en profiter ?
Alors oui, alors même si c'est une soirée privée qui n'a aucun enjeu commercial, vraiment dont les portes du palais sont closes aux personnes étrangères, aux invités, sur la place sous les fenêtres du palais, il offre dans la grande tradition des aristocrates des cours du XVIIIe siècle, un bal populaire pour tous les gens du quartier, tous les gens qui souhaitent venir costumés viennent. Il offre des divertissements, des boissons, des extraordinaires buffets, et tout cela se conclut par un magnifique feu d'artifice qui embrasse tout le quartier, que bien évidemment Bestegui paye pour son unique plaisir et celui des gens qui sont là, qui partagent son rêve, en fait.
Virginie ?
Thomas, nous sommes aujourd'hui au château de Versailles, qui est le palais de Louis XIV, et vous nous racontez que le 3 septembre 1951, au palais Labia, le roi Soleil est aussi présent. Vous pouvez nous expliquer cette histoire étrange ?
Je crois que vous voulez parler de Jacques Fatt. Alors Jacques Fatt, qui sont avec les deux grands couturiers qui règnent en maître à cette époque sur la haute couture parisienne, sont bien évidemment des amis et des invités du bal du siècle. Tous deux sont très attendus par les badauds qui se pressent devant le palais, mais également par les autres invités. On ne sait pas vraiment comment ils vont arriver, on veut voir leur costume. Et donc Jacques Fatt arrive, lui, en Louis XIV, avec son épouse et muse, Jeanne Geneviève en Reine de la Nuit. Et puis, il sera suivi par Christian Dehors, qui lui va arriver avec les Dalí, le couple Dalí dont vous parliez tout à l'heure.
Pour la postérité, cette soirée est devenue le bal du siècle. Mais vous racontez aussi dans votre livre que j'ai lu, il y avait, vous parlez du bal des têtes, du bal Proust. Il y a eu d'autres bals. Pourquoi les invités se souviennent de cette soirée comme le bal du siècle ?
Alors, évidemment, il est insurpassable dans le nombre des invités, dans la qualité des costumes qui ont été créés spécialement pour l'occasion. Je parlais de Jacques Fatt et Christian Dior, mais tous les couturiers de Paris ont été embauchés pour créer des costumes absolument pharaoniques, extraordinaires. Donc tout cela, tout ce faste incroyable, ça a émerveillé même les invités qui avaient l'habitude de ces bals costumés de l'entre-deux-guerres. Après, par le cadre, évidemment, est extraordinaire. Le palais en soi, beaucoup le découvrent pour la première fois. Il a été passablement ravagé pendant la guerre. Bestegui l'a entièrement restauré et décoré. Donc forcément, tout cela éblouit tout le monde, même les gens qui sont habitués à un certain niveau de faste et de luxe, en fait.
Jean-Luc ?
Alors, le palais de la Bia où le bal s'est tenu est une belle illustration de ce qu'était l'inimitable goût Bestegui. Comment vous le définiriez, ce goût Bestegui ?
Alors, inimitable, je ne sais pas, mais insurpassable, ça c'est sûr. Alors, vous l'avez dit, c'est avant tout une succession de références historiques, stylistiques, culturelles, qui est, à mon avis, inédite dans l'histoire de la décoration et l'histoire du goût. Avant, on faisait du total look. On demandait à un décorateur de créer des intérieurs dans un seul style qui allait avec une maison. Pour la première fois, Bestegui, lui, mélange. Il ose mélanger des choses qui seraient impensables de mélanger. Du vrai et du faux, même. Il fait raboter des commodes pour les faire entrer dans un intérieur, il fait faire des copies de tableaux pour créer des paires, donc tout ça dans un souci purement de créer une ambiance, un décor en soi, et sans forcément s'entourer de belles choses parce qu'elles ont une valeur pécuniaire.
Après ce bal de septembre 1951, est-ce que la fête a continué pour Charles de Bestegui ? Est-ce qu'il a donné d'autres bals mémorables après cette nuit de légende au Palais Labia ou au château de Grousset à Montfort-la-Maurie ?
Alors c'est là qu'on voit que Bestegui est encore une fois un gentilhomme du 18e parachuté dans le 20e, c'est-à-dire qu'il aime créer pour créer, et une fois que les choses sont faites, il s'en lasse. Le Palais Labia en soi ne va pas connaître de si merveilleuses soirées, en revanche, il va continuer à créer des intérieurs absolument somptueux, il va continuer à agrandir son château de Grousset à Montfort-la-Maurie à côté de Paris, de deux ailes latérales dans lesquelles il va construire ce qui restera en fait dans l'histoire le dernier théâtre privé de château de l'histoire. Et pour l'inauguration de ce théâtre, il va effectivement organiser une grande soirée, il va commander une pièce de théâtre, il va dessiner les costumes, il va inviter les comédiens de la Comédie française à jouer cette fameuse pièce. Et bien évidemment, cette représentation se conclura par une grande fête et par un festin magnifique, bien sûr.
Merci beaucoup Thomas Penquin de nous avoir emmené à Venise. Votre livre Charles de Bestegui, le prince des esthètes, paraît ce jeudi aux éditions Talendier.
Tout à fait, merci de m'avoir reçu.
Merci à vous.
Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern.
Mes aïeux, quelle époque, mes aïeux, quelle époque.
Oui, mes aïeux, quelle époque, une époque et même plusieurs qu'on vous raconte chaque jour pendant 2 heures et ça fait 500 émissions que ça dure. Et pour cette 500e, historiquement vôtre, est au château de Versailles, dans la salle des croisades. Toujours avec Jean-Luc Lemoine, David Castel-Lopez, qu'on retrouve dans un instant. Mais tout d'abord, ils sont quatre pour nous raconter Versailles autrement. Mes aïeux, quelle équipe ! Yvan Jacob, Philippe Charlier, Olivier Pouls et Virginie Giraud, notre historienne des mœurs. Virginie, vous nous racontez ce qui s'est passé ici même à Versailles en 1746, où la belle marquise de Pompadour a fondé le théâtre des cabinets. Est-ce que la Pompadour portait, comme vous, une aussi belle robe baroque, Virginie ?
Quand elle montait sur scène à Versailles, la Pompadour pouvait effectivement porter une robe comme la mienne. Jeanne Poisson, marquise de Pompadour, en tant que favorite de Louis XV, est entièrement dévouée à son bonheur, et comme c'est un grand mélancolique, elle le distrait en organisant des représentations théâtrales. Pour ce faire, elle monte sa propre compagnie, le Théâtre des Cabinets.
Ah bah j'adorerais passer le casting pour rejoindre cette compagnie. Ça se passe où ? Dans la Galerie des Glaces ?
Et non, la compagnie œuvrait dans des salons. Mais attention Jean-Luc, vous devez savoir que c'est une compagnie un peu particulière. Les femmes y régnaient en maîtresse absolue. La Pompadour a rédigé un règlement qui stipule que seules les femmes choisissent les dates des répétitions et des représentations. Si les sociétaires masculins arrivent en retard, ils ont une amende. En revanche, Si ce sont les femmes, il y a une tolérance de 30 minutes.
Ah bah voilà un règlement qui m'a l'air parfaitement égalitaire. Et qu'est-ce qu'on jouait dans ce théâtre ?
Essentiellement des pièces à la mode, mais Madame de Pompadour ne perd pas de vue la politique. La première pièce donnée est le Tartuffe de Molière qui ridiculise l'hypocrisie des dévots. Ce choix n'est pas gratuit puisque c'est un pied de nez aux dévots de la cour qui la détestent. Et parmi eux, il y a notamment le Dauphin, le fils de Louis XV.
Madame de Pompadour s'est fait des ennemis parce qu'elle ne pouvait pas inviter beaucoup de monde aux représentations. Parce qu'au fond, j'imagine, ses cabinets, ça devait être tout petit.
Et oui, c'était très exclusif. Mais son succès est tel que le roi lui a fait construire un théâtre démontable dans l'escalier des ambassadeurs qui pouvait accueillir 135 courtisans. 2 ans plus tard, la troupe est dissoute et l'escalier lui-même est détruit en 1752. Cette même année, la marquise de Pompadour va distraire le roi d'une nouvelle manière avec les petites maîtresses du parc Auxerre. Mais ça, c'est une autre histoire versaillaise.
Ah, mes aïeux, quelle époque. Bon, on savait s'amuser en ce temps-là. Pour tout savoir sur la Pompadour, on vous retrouve évidemment dans votre podcast Au cœur de l'histoire, Virginie. Et après le théâtre des cabinets, on passe au cabinet tout court sur Europe 1 avec notre médecin légiste de l'histoire, Philippe Charlier.
Et oui Stéphane, je suis certain que la première fois que vous êtes venu à Versailles, la première question que vous vous êtes posée était très historique. Comment faisait Louis XIV quand il avait envie de pisser ?
La première fois que je suis venu à Versailles, j'étais hôte d'accueil, c'est les gens qui me demandaient où je vais aller pisser. Mais cela dit, quand vous ouvrez certaines portes ici, vous trouvez des chaises percées, des chaises d'aisance.
Et avant l'émission, nous avons pu constater que peu de choses ont changé. Et bien, contrairement à des châteaux plus anciens, le souverain intègre à ses plans des toilettes au sein de chaque aile de son palais. Et le roi préfère la chaise percée avec parfois quelques surprises, comme cette fois où Louis XVI s'est fait surprendre par un chat qui s'était réfugié dans la cuvette de faïence. Déjà qu'il ne les aimait pas, là c'était vraiment pire. Sinon pour le reste, eh bien, le prince et la cour disposent chacun de leur propre chaise percée dans la garde-robe de leur appartement, qui jouait en fait le rôle de toilette privée en somme. Le seul problème, c'est que l'édifice est vaste et on n'a pas forcément le temps d'attendre, notamment quand on est un peu vieux et qu'on a des problèmes de prostate. Alors on a prévu derrière les paravents, dans les couloirs, je ne regarde personne à cette table, hein, quelques chaises percées au cas où. Malgré tout, il est quelquefois un peu trop tard, l'endroit est occupé et du coup, eh bien, on est obligé de se soulager derrière une tapisserie ou dans un massif de fleurs. Eh bien, figurez-vous, Stéphane, que les odeurs sont parfois tellement fortes dans les parterres qu'on est obligé de planter des végétaux aux odeurs volontairement très fortes, du jasmin, des jacinthes, des narcisses, de la menthe. Et comme il y a plusieurs milliers de personnes chaque jour qui sont présentes ou qui transitent au palais de Versailles, eh bien, ça fait des tonnes d'excréments, des mégalitres d'urine. Que faire de tout ceci ? Eh bien, toutes les chaises percées et également les pots de chambre pendant la nuit, remplies de matières malodorantes, sont vidées par une noria de valets dans la trentaine de fosses d'aisance réparties sous les escaliers du palais. Les canalisations sont déversées dans les marécages alentours qui portent des noms étranges et très glamour comme les étangs puants. Résultat, eh bien, des épidémies récurrentes au sein de la population de Versailles. Bon appétit, bon goûter.
Ben oui, justement, sans transition, on va parler gastronomie maintenant à Versailles, évidemment, avec notre guide culinaire vivant et même bon vivant, Olivier Pouls.
Et oui, et je vous parle du grand couvert. Est-ce qu'on imaginerait aujourd'hui Emmanuel Macron dînant seul à l'Élysée devant les yeux d'un public de courtisans et de curieux venus simplement assister au repas du chef de l'État ? Évidemment non. Et bien pourtant, c'est ainsi que Louis XIV mangeait presque quotidiennement à Versailles lors d'un rituel appelé le grand couvert ou le grand repas public. Alors il se déroule vers 22h, une table est dressée dans l'antichambre du roi. Son fauteuil est placé au centre. Certains jours, la reine et leurs enfants prennent place autour de la table, mais le souverain mange régulièrement seul. Dans la pièce, courtisans, courtisanes et curieux sont massés, alors sur des chaises pliantes ou debout, et assistent, comme on assisterait à une pièce de théâtre, au repas royal. Il faut dire que le spectacle est assez impressionnant. On apporte d'abord les soupes, 4 en général, puis les entrées, les rots, les fameuses viandes rôties, les salades, dont le roi raffole, on dit même que c'était sa séquence préférée du repas, c'est-à-dire qu'il n'est pas beaucoup dedans, puis les entremets et enfin les fruits, le tout généreusement arrosé de vin. On dit que Louis XIV mangeait comme un cochon, hein, il se baffrait littéralement en maculant ses habits royaux. Peut-être était-il un peu contrarié, car en fait il avait un souci. Il mangeait froid, figurez-vous, parce que dans cet immense château mal chauffé, les plats mettaient de longues minutes pour arriver des cuisines à l'antichambre du roi. Ils avaient donc largement le temps de refroidir. Durant l'hiver 1709, il faisait si froid à Versailles que même le vin avait eu le temps de geler dans les verres. Alors son successeur Louis XV, peu friand de ce type de cérémonial, préférant l'intimité d'un repas seul avec la reine, et on peut le comprendre, a limité très très fortement ce type de cérémonial et donc de grands repas, de grands couverts.
Merci Olivier. Et lui aussi aimait manger seul dans son grand appartement. Yvan Jacob, vous nous racontez un créateur de mode qui était fasciné par Versailles.
Bah oui, vous savez que Versailles, c'est évidemment un lieu qui est intimement lié à la mode. D'abord parce que la mode a été un élément essentiel, vraiment central du système de cours mis en place par Louis XIV. C'était à la fois complètement futile et absolument fondamental. Et aussi justement parce que c'est pendant ce règne de Louis XIV que la France et donc Versailles deviennent le centre de la mode européenne. Colbert disait que la mode était à la France ce que les mines d'or du Pérou étaient à l'Espagne. Vraiment la grande richesse du pays. Et donc l'influence de la France et de Versailles s'est installée comme ça au fil des siècles jusqu'à nos jours. Et beaucoup de créateurs s'en sont inspirés. Mais l'un d'eux, peut-être plus que les autres, c'est donc Karl Lagerfeld. Il a d'ailleurs photographié Versailles. Je ne sais pas si vous saviez qu'il était aussi photographe. Et ses clichés en noir et blanc ont été exposés ici au château en 2008. Karl avait la passion du XVIIIe siècle français, une passion née dans l'enfance. À 5 ans, le petit Karl voit un tableau dans une galerie à Hambourg, une œuvre qui montre Voltaire en train de dîner avec Frédéric II dans le château de Sanssouci, et il est complètement subjugué par les perruques poudrées et nouées sur l'arrière avec un nœud noir, ce qui rappelle d'ailleurs son catogan à lui, hein, sa coiffure qui l'a rendu célèbre dans le monde entier. Et il a ensuite collectionné les livres, les tableaux. Il a acheté un petit manoir en Bretagne, enfin pas si petit que ça, où il a voulu reconstituer un Versailles en miniature avec toutes les pièces qu'il avait achetées partout chez les antiquaires de Paris. Et puis, bien sûr, un jour, Karl a fait défiler ses mannequins ici. C'était pour la collection croisière de 2013 de Chanel. C'était dans les jardins de Versailles. Il a dit s'être beaucoup inspiré de Madame du Barry, la dernière favorite de Louis XV pour cette collection. Mais si vous la regardez bien, elle est quand même avec ses jupes à paniers version mini et des perruques courtes qui rappellent plutôt les années 1920 que le XVIIIe siècle. On voit bien que Karl n'était absolument pas dans la nostalgie du XVIIIe siècle. Il s'en est inspiré. Mais il trouvait qu'il n'y avait rien de plus moderne que Versailles avec ses grandes allées d'arbres. Il disait même, Stéphane, je sais que vous l'imitez parfaitement.
À Versailles, c'est complètement cubiste.
Et cette validation par le styliste le plus tendance de son époque, c'est bien la preuve que Versailles ne se démode jamais.
Mes aïeux, quelle époque! Merci Yvan et merci à tous les quatre.
Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern.
Les origines.
Historiquement vôtre fête sa 500e depuis le château de Versailles. Merci à vous tous d'être présents et de nous suivre aussi fidèlement sur Europe 1 depuis 3 saisons maintenant. 3 ans qu'on remonte aux origines avec toutes celles et ceux que vous entendez au micro de cette émission, Jean-Luc Lemoine, Clémentine Portier-Keltenbach, Virginie Giraud, Yvan Jacob, Olivier Pouls, Philippe Charrier, mais les origines, c'est surtout lui, David Castello-Lopez. Et aujourd'hui, David, vous remontez le fil des perruques à l'image de celle que vous arborez fièrement cet après-midi.
Oui. Les êtres humains ne sont pas d'accord sur grand-chose, mais il y a au moins un point sur lequel ils s'accordent, c'est qu'avoir des cheveux, c'est mieux que de ne pas avoir des cheveux. Alors bien sûr, vous trouverez toujours des gens pour vous dire que non, pas du tout, c'est je sais pas quoi, les Maasai, ils sont chauves, ou les moines, ils sont sexy, je sais pas quoi. Mais le goût des cheveux, ça reste l'un des goûts les plus partagés de la planète. Alors les raisons qui font qu'on n'a pas de cheveux, elles peuvent être très diverses. Il y en a qui découlent d'un problème de santé, mais il y en a aussi qui n'ont rien de pathologique et qui sont dus tout simplement à la malchance d'avoir tiré le mauvais numéro à la loterie génétique. Et moi, Stéphane, depuis que j'ai 20 ans, j'en ai parlé souvent ici, je sais que je fais partie des gens qui ont tiré le mauvais numéro. J'assiste depuis cette époque à la lente mais irrémédiable érosion de mes densités. Alors, je ne suis pas tout à fait au stade où c'est évident pour tout le monde, mais je sais que ce jour viendra et qu'il n'est plus si lointain. Et ce jour-là, je vous le dis tout de suite, je ne laisserai pas la nature emprunter les pentes qu'elle a dessinées pour moi. Je me battrai, je convoquerai les ajustements savants de ces artisans du cheveu qu'on appelle coiffeurs, mais qui dans mon cas sont aussi mes psychologues. Je ferai appel aux mains minutieuses des chirurgiens et si rien de tout cela ne fonctionne, je mettrai une perruque. Bon, ce que je viens de décrire, c'est la perruque discrète qui veut se faire oublier, celle qui veut remplacer des cheveux qui n'arrivent plus à exister. Mais en face de ça, il y a des perruques qui ne se cachent pas, celles qu'on remarque, celles qui sont faites pour qu'on sache que ce sont des perruques. Ce sont les perruques roses des stripteaseuses, par exemple, les échafaudages chantillesques des madames de Merteuil et les catogans poudrés des marquis dans mon genre. Vous voyez ce que je porte ici? Deux types de perruques, donc, et deux ambiances. Et tout ça, bien sûr, ça donne envie de savoir d'où viennent ces cheveux que l'on met par-dessus ceux que l'on a déjà ou à la place de ceux que l'on n'a plus. On sait que les perruques, elles existaient déjà dans l'Égypte ancienne, chez les gens riches. C'était un accessoire de beauté, mais c'était aussi un accessoire hygiénique. Pourquoi ? Eh bien, à cause des poux. À l'époque, la Marie-Rose n'existait pas encore, et donc la meilleure façon de ne pas avoir de poux, c'était de ne pas avoir de cheveux. Et il était donc courant de se raser les cheveux et de les remplacer par une perruque. Et quand cette perruque, qui la plupart du temps était faite avec de vrais cheveux, s'infestait elle-même de poux, il suffisait d'en changer ou de la faire bouillir pour tuer les poux. Les Phéniciens, ensuite, mais aussi les Grecs et les Romains, ils en ont porté. Et puis, la perruque est tombée en désuétude à la fin de l'Antiquité. Mais elle est revenue timidement, à partir du XVIe siècle, sous la version discrète que j'ai évoquée au début de cette chronique, pour cacher les cheveux que les hommes avaient perdus. Pourquoi à ce moment-là particulièrement ? Peut-être parce que de plus en plus de gens avaient la syphilis et que la syphilis, entre autres choses désagréables, ça provoque aussi la chute des cheveux. Louis XIII en a porté une pour dissimuler son crâne chauve et surtout Louis XIV à partir de l'âge de 20 ans parce qu'il avait perdu tous ses cheveux. Et quand le roi fait quelque chose, vous le savez, cette chose devient immédiatement cool. Donc, dans le sillage de Louis XIV, tout le monde, même les gens qui n'avaient pas du tout de calvitie, ont commencé à porter des perruques de plus en plus tarabiscotées et de plus en plus imposantes. Tout ça pour être classe, comme le roi. Bon, la Révolution américaine, puis la Révolution française, elles ont rendu assez brusquement la perruque ridicule. C'est devenu le symbole d'un ancien régime poussiéreux et décadent. Et donc, à partir de ce moment-là, la perruque a repris son rôle de toupet palliatif le plus discret possible à l'absence de cheveux. Mais, vous le savez, les modes endormies finissent toujours par se réveiller, les ringardises sédimentées se régénèrent et la tendance va puiser ses nouvelles vigueurs dans la plouquerie. Et aujourd'hui, sur Instagram, on voit plein d'influenceuses qui s'affichent avec des perruques pas possibles, Paris Hilton, Cardi B, en mode, si vous voulez, Louis XIV ou Toutankhamon des réseaux sociaux. Quant à moi, je sais déjà de quoi sera faite ma perruque le jour où ma calvitie se verra. Elle sera faite de mes propres cheveux. À l'âge de 21 ans, lorsque j'ai coupé mes cheveux, qui m'arrivaient à l'époque au milieu du dos, eh bien, j'ai gardé mes mèches. Et ces mèches, je vous les ai apportées aujourd'hui. Regardez-moi ça, ce sont mes cheveux de l'époque. Et dites-moi si le David de 2025 ne sera pas joli avec une perruque faite des cheveux du David de 2003.
Ça ne va pas couvrir grand-chose.
Peut-être pas suffisant.
Mais c'est vrai.
C'est parfaitement vrai, c'est la vérité absolue.
Et le raccord de couleur, on fera comment ?
Mes cheveux ont foncé depuis. Oui.
Mais ça ressemble à des poils de fesses.
Vous avez des poils de fesses comme ça, vous ?
Non, mais j'en ai vu.
Ils sont très lisses. Ça donne envie de voir.
C'est soyeux, c'est soyeux.
Merci David. On retrouve Les Origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr. Vous pouvez également retrouver toutes nos émissions, sauf peut-être la chronique qui va suivre, que je risque de faire interdire, évidemment, puisque Jean-Luc a décidé de brosser mon portrait.
Europe 1, historiquement vôtre, depuis le château de Versailles.
Et oui, je crois que vous l'avez compris, aujourd'hui, historiquement vôtre, fête sa 500e depuis le château de Versailles avec toute l'équipe et notre public sympathique. On a réuni pour l'occasion des personnages qui ont ouvert le bal. Après Louis XV et Charles de Bestégui, vous avez attendu la toute fin de cette émission, qui sera peut-être votre dernière, selon ce que vous allez dire, Jean-Luc, pour nous raconter à votre manière...
Stéphane, mais vous surtout, oui, vous. Si je rejoins cette émission, c'est avec le rêve secret de pouvoir dresser le portrait de mon idole face à lui.
Non, c'est pas moi votre idole, ce serait plutôt un footballeur.
Non, c'est Vincent Niclot. Mais comme il n'était pas dispo pour la 500e et qu'il n'a jamais vraiment ouvert de bal, j'ai dû trouver une autre idole, plutôt une autre idée. Et alléluia, en ouvrant Point de vue, je vous ai vu, vous, ouvrir le bal des débutantes. Point de vue de 1982, je précise. Trouvé dans la salle d'attente de mon médecin. J'ai dû me choper une maladie nosocomiale, mais l'occasion était trop belle. Oyez, oyez, cher peuple. Je vous prie, messieurs, dames, d'applaudir à nouveau le tout premier animateur, présentateur, comédien, monarque, avoir vu de près la gaine de feu Sa Majesté la Reine Elisabeth II, Stéphane Bern. Stéphane Bern, c'est un défi capillaire et vestimentaire tout au long de ses presque 40 ans de carrière.
De la cravate jaune moutarde au mocassin à gland, en passant par le jean taille haute révélant un pubis proéminent, le tout surmonté d'une frisée crânienne à rendre jaloux à un caniche royal. À chaque décennie, sa proposition. Stéphane est imprévisible. C'est un tout et c'est un vrai sujet. D'ailleurs, il n'y a qu'à taper son nom sur Google pour s'en rendre compte. 4 millions de résultats en 5 secondes. Il fascine les gens, Stéphane. Il n'y a qu'à regarder les questions qui les plus fréquentes qui lui sont rattachées, comme, je vous promets qu'elles sont vraies, qui est la femme de Stéphane Bern ? Où vit actuellement Stéphane Bern ? Quelle est la maladie de Stéphane Bern ? Ou encore, quel est le salaire de Stéphane Bern ? Vous êtes curieux et c'est tout à votre honneur. Mais pour des raisons de respect de la vie privée, je ne vais répondre qu'à une seule de ces interrogations, de l'eczéma génital.
Non, juste, je peux répondre à cette question.
Oui, bien sûr.
Un jour, j'ai dit que je souffrais de, vous savez, le fait de tout garder.
Les syndrome de Diogène.
Non, ce n'est pas tout à fait le Diogène. C'est gilomanie, vous savez, vous gardez les rubans, les
papiers. Les cheveux.
Oui, les vieux cheveux, comme vous. Eh bien, les gens ont dit que j'avais une maladie mentale.
Les gens sont lucides.
Oui, non, ce n'est pas une maladie mentale, je vous assure.
C'est à Lyon que Notre Altesse aux boucles rebondies voit le jour en novembre 1963.
On ne devrait pas donner de date.
C'est en novembre.
Voilà, une année.
Exactement, il y a quelques temps.
La fin du XXe siècle.
C'est ça. Son papa, Louis, est français. Sa maman, Mélita, est luxembourgeoise. Stéphane Bern, donc, dans la double culture, celle de la baguette tradition et du blanchiment d'argent.
Non, je m'insiste, mais... C'est une attaque en règle contre mon petit pays.
Mais pas du tout. On reprend les bases.
Enfin, chez nous, on ne blanchissait pas d'argent, il fallait en avoir.
Et grâce notamment à son grand-père maternel, Stéphane se passionne très vite pour l'histoire et les têtes couronnées. Le Luxembourg devient son royaume enchanté à lui. À 12 ans, il ne joue pas avec son yo-yo en bois ni avec une peluche Casimir. Non, il préfère écrire au grand-duc, Jean de Luxembourg, pour lui demander de le rencontrer. Évidemment, le souverain déposera une main courante quelques semaines plus tard. Bon, en vrai, le grand-duc lui envoie une carte postale. C'est cheap, mais c'est déjà ça. Jean de Luxembourg restera son héros d'enfance et pénétrer le palais grand-ducal, un de ses rêves. Un rêve qui devient réalité en 1989, lorsque Stéphane, alors jeune journaliste spécialiste de la royauté, est convié au premier jubilé du grand-duc et de la grande-duchesse. Il réalise la première interview des souverains et doit changer deux fois de pantalon suite à quelques pollutions d'urine trop spontanées.
C'est drôle. C'est faux, mais c'est drôle.
Presse écrite, radio, puis télévision, Stéphane est un touche-à-tout et gagne en popularité à chaque nouvelle aventure professionnelle. C'est en 1994 que le grand public découvre pour la première fois sa petite bouille de concierge de palace et son costume marron dans l'émission « Famille, je vous aime », où il assure une petite chronique sur le Gotha. Puis on lui confie les commandes, pour ne pas dire les reines, lui qui les aime tant, de saga sur TF1. Stéphane sait tout, connaît tout le monde, et garde même précieusement des fiches remplies d'infos sur chaque personnalité qu'il rencontre. Dans le monde réel, on appellerait ça un psychopathe. Chez nous, c'est un spécialiste. Car oui, grâce à son savoir-faire exceptionnel, et une fois de plus, à ce pouvoir magique de nous intéresser à l'inintéressant, Stéphane est l'homme de toutes les situations. Stéphane est également redevenu notre monsieur patrimoine, vous le savez, missionné par notre président, avec qui il partage une passion commune. Les piercings aux tétons. Pardon, deux passions communes. Les piercings et Brigitte. Stéphane est très proche de la première dame, qui elle-même est fan de l'émission Secret d'Histoire. On peut dire que ces deux-là se sont bien trouvés. Et d'ailleurs, je vais m'adresser directement à vous à partir de maintenant, à l'approche de la fin de ce portrait non exhaustif. Comment ne pas évoquer également votre carrière d'acteur ? Vous n'en êtes pas à votre coup d'essai, vous avez joué au théâtre, vous êtes apparu dans quelques séries, téléfilms. Mais vous avez raison de tout vous autoriser. Encore plus quand le public vous suit, et c'est le cas. Et vous le dites vous-même. Je rêve de jouer l'acteur de plus en plus, parce qu'un vieil animateur de télé, ça devient pathétique. Alors qu'on dit plutôt d'un vieil acteur qu'il a de la bouteille. On embrasse Michel Drucker au passage.
Je faisais personne, moi.
Bien sûr. Et en parlant de bouteille, faisons péter le champagne pour fêter votre carrière protéiforme, et chose rare dans ce métier à la cyclothymie avérée, votre gentillesse et votre bienveillance. Enfin, du moins, quand les micros sont allumés. En vrai, il bitch comme personne. Comme quand il parle de Clémentine.
Avec le feu qu'elle a au cul.
Et qu'est-ce qui s'accorde le mieux avec du champagne qu'un bal, mon cher Stéphane ? Vous vous y connaissez, car vous animez et présentez avec talent le célèbre bal des débutantes où chaque année, des filles d'eux, des princesses, mais aussi de simples roturières de 16 à 21 ans, venues du monde entier, font leur entrée dans le beau monde, ou plutôt dans celui d'Instagram. Malheureusement, vu l'âge de notre équipe, notre bal ne rime plus vraiment avec débutante, mais avec brocante.
Oh non.
C'est vache.
C'est pas sympa.
Non, c'est lucide. C'est pas grave, c'est dans la vieille flûte qu'on boit le meilleur champagne. Bienvenue à Versailles, bienvenue au bal du roi Berne Ier. Ajustez vos jupons, serrez vos corsets et évitez de vous marcher sur les durillons. Le bal est ouvert.
Ah, merci Jean-Luc, c'est sympa. Bravo. Le bal est ouvert et c'est sur cette musique qu'on doit se dire au revoir, même si on va continuer à danser, surtout Clémentine. Elle est venue pour ça. L'occasion de remercier toute l'équipe d'Historiquement Vôtre, les équipes d'Europe 1, qui ont travaillé pour organiser, écrire, préparer, faire exister cette émission exceptionnelle depuis le château de Versailles et qui le font avec passion pour toutes nos émissions. C'était un challenge, c'était un défi même. L'occasion de remercier donc toute l'équipe d'Historiquement Vôtre. Un grand merci aussi au château de Versailles, à sa présidente Catherine Pégard, à ses équipes Barnabé, Violaine, enfin tous ceux qui nous ont permis de mener la danse dans ce lieu d'exception qui fête cette année ses 400 ans. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Merci au public présent aujourd'hui et surtout à vous, cher public, qui nous écoutez chaque jour sur Europe 1. Historiquement Vôtre revient demain dès 16h pour la 501e émission avec toute l'équipe et surtout avec trois nouveaux personnages qui se partagent le gâteau. Justement, il est temps d'aller couper le gâteau d'anniversaire. À demain les amis, encore merci. À suivre sur Europe 1, c'est Punchline, avec Laurence Ferrari, à qui on garde un morceau de gâteau. C'est promis.
Retrouvez Historiquement Vôtre sur europe1.fr.